Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat en direct depuis la maison de la Radio France avec nos invités chacun chez eux. À l'ordre du jour ce soir, la crise est-elle le moteur de nouvelles mobilités? Nous avons connu un monde à l'arrêt, mais en France, depuis 5 jours, ce monde a commencé à rebouger. À pied, en voiture, en vélo et peut-être moins qu'avant dans les transports en commun. En 2 mois, nous avons appris un nouveau vocabulaire de spécialistes des transports et de la mobilité. Désormais, une plage se doit d'être dynamique et l'urbanisme est devenu tactique. Pour autant, le monde du transport va-t-il être modifié par de nouveaux comportements et des politiques renouvelées? La voiture, menacée par les préoccupations climatiques, va-t-elle regagner de la place qu'elle avait perdue? La moyenne distance va-t-elle désormais se passer de l'avion? On le voit, c'est à toutes les échelles, urbaines et rurales, locales, nationales et internationales, que se jouera la partie. Nous en discutons ce soir avec nos 3 invités, avec Sylviane Roux, elle est 4e adjointe à la mairie de Rennes en charge des mobilités, conseillère communautaire à Rennes Métropole du groupe Europe Écologie Les Verts. Marie Huyghe est ingénieure et docteur en aménagement du territoire, associée au laboratoire CNRS Citerès, et puis elle est consultante également. Et avec nous également, depuis la Suisse, Vincent Kaufmann, il est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique de Lausanne, directeur également du laboratoire de sociologie urbaine et directeur scientifique du forum Vie Mobile à Paris. Il est co-auteur récemment de Mobilité et Libre Circulation en Europe chez Economica. Bonsoir Sylviane Roux, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Marie Huyghe.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous Vincent Kaufmann.
Bonsoir.
Vous m'entendez? Vous êtes un grand spécialiste de ces questions des mobilités depuis longtemps. J'imagine que quand on travaille sur ces questions-là depuis aussi longtemps que vous, on est surpris d'abord par la mise à l'arrêt et puis par l'arrêt complet dans certains pays, justement, de ces mobilités ou presque complets.
Oui, tout à fait. C'est une situation totalement inédite qu'on n'a pas vécue depuis, qu'on n'a jamais vécue en fait. Et moi, il y a une chose qui me frappe tout particulièrement, c'est que moi, c'est la première fois depuis que je suis né qu'on me dit de pas prendre les transports publics. Et ouais. Il y a quand même. C'est pas complètement.
Et ça n'est pas anodin. Effectivement.
Non, c'est un retournement de situation tout à fait inédit.
Oui, et pour vous, Sylviane Roux, qui êtes donc adjointe à la mairie de Rennes et qui mettait depuis longtemps autant d'énergie à essayer justement de transformer les transports urbains dans votre ville, en particulier en développant la place du vélo, j'imagine que vous êtes un peu prise aussi à contre-pied.
Oui, tout à fait. Donc, on a observé pendant la période de confinement une baisse de 80% de la circulation voiture, donc ce qui était très important. Mais là, on voit finalement que le trafic remonte très vite, puisqu'on n'est plus qu'à 30%.
Mmh. Mais puis aussi pour la fréquentation des transports urbains, évidemment. J'imagine que dans une mairie comme la vôtre, on a mis beaucoup l'accent sur ces transports urbains et en particulier les transports en commun. Eh bien, effectivement, c'est un peu un contre-pied là aussi.
Oui, tout à fait. Donc, on a une ligne de métro et une deuxième qui devrait ouvrir dans quelques mois. Et la reprise là, correspond à 22% de la fréquentation d'un jour avant confinement. Donc on voit que ça reprend quand même tout doucement aussi.
Très très doucement. Et pour vous, Marie Huyghe, qui travaillait sur les territoires ruraux en tant que consultante et qui avait travaillé à un projet de recherche qui s'appelait Mobiter, justement pour essayer de réfléchir à la façon de avec d'autres chercheurs, d'allier justement les types de transports dans des milieux ruraux. Eh bien là aussi, on avait parié sur la possibilité après les Gilets jaunes, effectivement, liés à la hausse du pétrole, que la voiture puisse à un moment ou à un autre reculer, ça n'est pas tout à fait le cas.
C'est pas tout à fait le cas, et en plus on est dans une situation très différente en rural par rapport à l'urbain, parce qu'on n'a pas, en urbain on a besoin aujourd'hui de trouver une alternative au transport en commun. En rural, en fait, on pourrait avoir peur que rien ne bouge, puisque la situation n'est pas plus dramatique qu'avant en matière de mobilité. Mais je serais pas si négative, parce que je pense qu'il s'est passé pas mal de choses pendant le confinement en termes d'expérimentation, d'autres modes de vie, d'autres modes de transport. Et donc, je pense qu'il peut quand même se passer quelque chose.
Alors, on va essayer justement de les décliner, ces changements potentiels dans les modes de transport. En commençant avec vous, Vincent Kaufmann, moi, j'ai appris l'existence, effectivement, de plusieurs termes. Alors, en lisant les travaux de Marie Huyghe, l'autosolisme. C'est quoi l'autosolisme, Marie Huyghe?
Oh, c'est simple, c'est simplement
c'est
être
quand on est tout seul dans sa voiture.
Voilà. Ah, d'accord. C'est très simple.
Voilà.
Et qu'on la conduit.
Voilà, et qu'on la conduit, c'est ça, effectivement. J'ai compris qu'il y avait maintenant des villes agiles, ingénieuses et frugales, en tout cas, c'est ce qu'on espérait. Et j'ai découvert ce terme qui, visiblement, est très connu des spécialistes depuis un peu plus de 10 ans, mais que je n'avais jamais lu, l'urbanisme tactique. Et ça, on en parle beaucoup de l'urbanisme tactique. C'est quoi l'urbanisme tactique, Vincent Kaufmann?
Oh ben, ce qu'on a appelé urbanisme tactique, c'est finalement des mesures qui sont prises actuellement, surtout pour favoriser les déplacements à vélo et la marche. Donc la tactique renvoie au court terme, éventuellement peut-être au provisoire. Moi, je suis pas un grand fan du terme, même si évidemment les mesures me semblent extrêmement intéressantes. Voilà, donc c'est vraiment l'idée que pour essayer de remplacer d'une certaine manière l'utilisation des transports publics, on va essayer de favoriser des alternatives,
une sorte de souplesse,
par les mobilités actives. Voilà, et donc on va affecter davantage d'espace aux mobilités actives, qu'il s'agisse du vélo ou de la marche dans l'espace public.
Oui, et de toute façon, si vous voulez mieux connaître effectivement ce qu'est l'urbanisme tactique, je conseille à nos auditeurs d'aller voir le très bon article sur le site de France Culture qui a été publié sous la signature de Céline Leclerc qui s'appelle « Demain, un urbanisme plus agile ». Sylviane Roux, cet urbanisme tactique, vous l'avez mis en œuvre dans la ville de Rennes depuis le déconfinement, c'est-à-dire en changeant les voies de circulation, en essayant de créer des voies temporaires pour le vélo, par exemple, là où vous avez déjà un plan vélo.
C'est vrai qu'il y a eu un mouvement national sous l'impulsion du Club des villes cyclables et de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, pour mettre en place ces pistes cyclables temporaires, provisoires. À Rennes, nous avons appelé transitoires, pour le côté moins éphémère, qu'on espère moins éphémère, puisque on pense qu'on va pouvoir peut-être les conserver si elles sont utilisées.
C'est ce qu'espère, par exemple, la mairie de Paris, peut-être avec la rue de Rivoli, piste cyclable. Ça n'est pas ce qu'espèrent, j'imagine, les automobilistes à Paris, mais enfin, ça, c'est une autre conversation. Allez-y, Sylviane.
Le terme transitoire aussi indique qu'on souhaite une transition vers des modes de déplacement plus vertueux.
Oui.
Et c'est vrai que depuis plusieurs années, nous sommes engagés aussi pour faire baisser la part de la voiture dans les déplacements. Alors, pas par caprice d'élu, mais parce que nous connaissons aussi, comme dans toutes les grandes villes, des problèmes de pollution. Et donc le vélo nous est apparu comme la solution, un mode de déplacement très efficace en milieu urbain.
Et vous avez passé des accords avec une association, un collectif local d'usagers qui s'appelle Rayon d'Action, qui pourtant était assez sévère avant le confinement sur le fait que votre plan vélo n'allait pas assez vite. Mais néanmoins, vous êtes concerté avec eux pour pouvoir essayer justement de mettre en place un plan vélo plus ambitieux pour pouvoir justement développer le vélo dans Rennes après le déconfinement.
Alors, on a un plan vélo. Effectivement, on a travaillé avec l'association d'usagers du vélo Rayon d'Action pour, dès le début du mandat, en fait, pour écrire un guide des aménagements cyclables pour avoir des bonnes pratiques et pour infuser une culture vélo dès le début des aménagements. Et donc, ces aménagements qu'on met en place sur un réseau structurant, 100 km de réseau structurant pour remailler tous les quartiers. Et là, effectivement, on accélère la mise en place de notre plan vélo, ouais. Parce que c'était des projets en fait qui étaient déjà dans les cartons, j'ai envie de dire. Et on attendait un petit peu la deuxième ligne de métro pour les mettre en œuvre. On a l'opportunité de le faire avant.
Vincent Kaufmann, on voit que certaines villes ont accéléré, par exemple en France, effectivement, ces questions-là. Du côté de Grenoble, on pouvait s'en douter, mais d'autres villes ont accéléré les aménagements pour pouvoir faire passer le vélo. Mais ce qui est très notable, d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant les spécialistes sur ce sujet, c'est que nous avons une culture en France très particulière, en particulier liée à nos ingénieurs des ponts et chaussées, à la façon dont nous imaginons notre urbanisme, à l'esthétique des villes, etc., qui fait que tout ce qui est un peu bricolé, et on sent que cet urbanisme tactique qui est mis en place depuis le déconfinement en créant des pistes cyclables là où il n'y en avait pas, mais de façon temporaire, eh bien, ça ne va pas toujours avec cette idée que l'on a, qu'on est en train de tracer dans la pierre ou dans le goudron, pour l'éternité ou presque, des grands gestes architecturaux et urbanistiques.
Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a une belle tradition
en France,
d'aménagement urbain. On le voit dans les centres-villes, hein, notamment en lien avec la piétonnisation, avec la mise en service de transports publics en site propre, hein, depuis une trentaine d'années. Il y a vraiment un soin extrêmement fort qui est apporté à l'espace public. Moi, je suis pas certain que ce soit en contradiction avec le fait de créer rapidement des pistes cyclables plus larges ou de nouveaux aménagements. Voilà, je crois qu'effectivement.
Mais ça vient d'une culture anglo-saxonne, et en particulier des États-Unis, où effectivement, peut-être l'investissement public des autorités publiques dans justement cette beauté, pourrait-on dire, des voies, etc., est moins grand que dans un pays comme la France, par tradition.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis. Si vous venez en Suisse ou en Allemagne, vous aurez. Voilà. Moi, ça me frappe toujours. Voilà, on me dit, mais oui, vous avez beaucoup de tramways en Suisse, mais ils sont très moches. Effectivement, ils sont très moches, mais ils fonctionnent bien. Mais je crois que c'est la question de la séduction. Moi, elle me semble quand même assez importante. C'est-à-dire que si on veut changer les pratiques durablement, et là, vous avez vraiment un atout, je crois, en France à ce niveau-là. Eh bien, il faut aussi séduire l'usager, l'accueillir, lui offrir un potentiel d'accueil qui fait envie finalement de faire du vélo, de prendre les transports en commun. Et ça, je pense que c'est vraiment un atout.
Marie Huyghe, tout de même, cette question de l'urbanisme tactique peut-il s'appliquer dans des conurbations semi-rurales ou semi-urbaines, dans des périphéries de villes, dans des espaces ruraux par exemple, ou de gros bourgs? Est-ce que ça peut s'appliquer, ou est-ce que, pour des raisons même de sécurité, pour l'usage du vélo, eh bien c'est plus difficile que dans des villes?
Non, je pense pas qu'il y ait de raison qu'on puisse pas le mettre en place en rural. En fait, la différence, encore une fois, c'est que en urbain, il y a déjà des plans qui existent, comme à Rennes, par exemple. Donc en fait, on met en œuvre des choses qui avaient déjà été planifiées avant. En rural, en fait, le risque, c'est qu'on fasse des choses qui n'ont pas été planifiées avant, parce qu'on a quand même beaucoup moins de planification des mobilités en rural, et donc ça conduise à aménager des choses qui sont pas sécures ou qui sont pas adaptées aux besoins réels des usagers.
Et donc des usagers qui ne les emprunteraient pas ces zones-là, par exemple.
Soit qui ne les emprunteraient pas, soit qui les emprunteraient une fois, qui auraient une expérience non satisfaisante et qui après, du coup, les abandonneraient complètement. Ça, c'est un gros avantage de l'urbanisme tactique, c'est que ça permet d'expérimenter et de lever certains freins ou certains a priori. Le risque, c'est que cette expérience soit pas satisfaisante, quoi.
Oui, et avec aussi une autre difficulté, c'est que les distances sont plus grandes dans des espaces ruraux pour se rendre, par exemple, à son travail, et que peut-être faire 15 ou 20 kilomètres pour se rendre à son travail avec un vélo dans des routes de campagne est peut-être plus compliqué, ou des nationales plus compliqué que dans une ville ou entre la banlieue et le centre-ville, par exemple.
Alors oui, c'est évident qu'il n'y a pas les mêmes distances. Par contre, il faut pas considérer qu'en rural, il n'y a que des distances importantes à parcourir. Il y a aussi beaucoup de déplacements de proximité, donc des déplacements de courte distance, qui eux peuvent parfaitement être réalisés à vélo ou à pied.
Oui, de la périphérie du bourg ou du village jusqu'au centre du village pour aller acheter son pain, par exemple.
Typiquement, pour aller chercher le pain, pour amener les enfants à l'école. Et puis, il y a aussi quand même les vélos à assistance électrique qui se déploient énormément là ces dernières années, qui eux sont des modes de transport parfaitement adaptés pour réaliser des distances de 10-15 km.
Et justement, dans les territoires moins urbanisés, Marie Huyghe, on peut dire aussi que peut-être ce confinement, ayant obligé à ne pas beaucoup se déplacer, eh bien, a changé peut-être momentanément quelques pratiques. On a redécouvert un commerce de proximité qu'on boudait parfois pour aller à 5, 6 ou 10 km faire ses courses dans un supermarché.
Ouais, exactement. Un des effets du confinement, ça a été de nous encourager ou de nous forcer à aller au plus près. Et donc, ça a permis à certains, ou forcé certains, à découvrir effectivement des commerces de proximité, des producteurs locaux, qu'on ne fréquentait pas avant pour tout un tas de raisons. Ça peut être, je pense qu'il est trop cher, je pense que c'est pas pratique, bon. Mais en tout cas, encore une fois, le confinement a permis d'expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles organisations, voire plus globalement de nouveaux modes de vie. Et en termes de mobilité, ça peut se traduire par une réduction des distances parcourues. Donc on n'est pas tellement dans le report modal vers la voiture à d'autres modes, mais on est plus dans une relocalisation des lieux fréquentés ou une réduction du nombre de déplacements. Par exemple, on n'a pas encore parlé du télétravail, mais ça peut se traduire par une évolution des pratiques de mobilité.
Sylviane Roux, au niveau d'une très grande ville comme Rennes, vous avez noté, hormis ce que vous disiez au départ, les changements d'habitude dans les transports eux-mêmes, mais est-ce que vous avez noté justement des débuts de changements qui seraient importants, qu'il serait important de prendre en compte quand on est une élue comme vous ?
Au niveau de la consommation, c'est sûr qu'on a vu une baisse de la fréquentation des hypermarchés et une volonté de fréquenter les marchés plus importants. Donc, sur Rennes, on a 25 marchés, des AMAP aussi qui ont très bien fonctionné pendant toute la période de confinement. Et je pense que c'est des habitudes de consommation qui vont perdurer.
Après
qui vont perdurer, oui, après, pendant cette période-là de déconfinement, c'est les habitudes qui continuent.
Et vous allez y travailler en tant que puissance publique, d'une certaine façon, pour pouvoir les conforter, ces habitudes, ou au contraire, vous allez laisser faire, d'une certaine façon, les manières de faire qui ont été prises avant le confinement par vos concitoyens?
C'était important d'encourager ces pratiques de proximité. Donc, si on veut justement faire des déplacements à vélo, il faut aussi avoir des commerces de proximité.
Mais vous avez les moyens en tant que municipalité, justement, la puissance publique a les moyens de tenir justement dans ce domaine-là, qui est un domaine lié généralement au marché. Donc, vous pouvez pas faire grand-chose pour pouvoir justement permettre le maintien de commerces de proximité. Ça dépend essentiellement du marché.
Oui, on encourage les marchés de plein air. Donc, on a des marchés tous les jours sur Rennes, dans différents quartiers.
De votre côté, Vincent Kaufmann, on a l'impression, quand on vous lit, que la question des mobilités, elle est posée souvent au détriment de la voiture pour valoriser le vélo. Mais ce que l'on comprend aussi en vous lisant, c'est que, par exemple, les piétons font partie des nouveaux modes de déplacement et que cette question-là est assez peu posée au niveau des municipalités et qu'on y pense assez peu souvent.
Oui, ça c'est une chose qui me frappe. Si on regarde la répartition dans l'utilisation des différents moyens de transport dans la vie quotidienne, on peut faire l'exercice pour la France, mais on pourrait le faire pour toute une série de pays européens. On arrive avec un premier moyen de transport qui est l'automobile. En nombre de déplacements par personne et par jour, c'est le premier moyen de transport. Encore que c'est de moins en moins le cas dans les villes-centres. Et puis le deuxième moyen de transport, c'est la marche. Bien avant les transports en commun, qui font en général entre 15 et 22, 25% des déplacements. Mais la marche, c'est très souvent le deuxième moyen de transport, voire le premier moyen de transport dans un certain nombre de villes-centres, dont certainement Paris, par exemple. Et donc, la marche, c'est un peu un grand oublié. On oublie que la marche, c'est un moyen de transport.
Parce que vous voulez dire que les municipalités font peu d'efforts, justement, sur la largeur des trottoirs, sur la possibilité, justement, de faciliter ce type de déplacement, et que, privilégiant ce qui se passe sur la chaussée, généralement, et combattant parfois les trottinettes sur les trottoirs, eh bien, elle oublie que le principal attrait des trottoirs, c'est de marcher.
Oui, alors avec l'urbanisme tactique dont on a parlé juste avant, effectivement, on commence à avoir des mesures pour la marche, élargissement de trottoirs, pour permettre aussi d'assurer peut-être un flux plus important de piétons de se déplacer de façon confortable. Mais oui, je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui me tient à cœur. Je crois que la marche doit vraiment être considérée comme un moyen de transport. Il n'y a pas de plan directeur de la marche dans de nombreuses agglomérations.
Est-ce qu'il en faut un ? Est-ce qu'il en faudrait un ? Il en faudrait un, selon vous ?
Mais oui, moi, il me semble, parce qu'il y a toute une série de déplacements assez courts qu'on pourrait faciliter en ayant une ergonomie de l'espace public qui est améliorée, avec des continuités pour les piétons, notamment dans le franchissement d'un certain nombre de carrefours. La marche, ça peut aussi être, on avait travaillé là-dessus avec le Forum Vie Mobile pour le cas de Bordeaux il y a quelques années, la marche, ça peut être une manière aussi de désaturer des transports publics sur des nœuds centraux de transport. Vous voyez, quand tout d'un coup, vous avez une ligne qui est saturée pour deux arrêts, voilà, il y a beaucoup de gens qui finalement utilisent les transports publics pour de toutes petites distances. Mais on a un gros potentiel de développement de la marche à ce niveau-là également. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, me semble être un petit peu trop un impensé et qu'on pourrait vraiment...
développer.
Mettre en valeur.
Sylviane Rau, vous à Rennes, est-ce que cette question vous la posez aussi en même temps que vous réfléchissez à la place des transports en commun, à la place de la voiture, à la place du vélo?
Oui, à Rennes, on marche beaucoup, hein, puisque 40% des déplacements, plus de 40% des déplacements sont faits à pied. Souvent pour des trajets de moins de 500 mètres, mais aussi de moins de 3 km. Et nous, on a fait voter un plan piéton en 2017 pour justement définir des liaisons magistrales entre secteurs, différents secteurs d'activité, différents quartiers. Et on a fait des repérages avec les habitants et les personnes vulnérables pour voir un petit peu les difficultés
de franchissement,
d'accessibilité, que ce soit la largeur des trottoirs. Les difficultés à traverser, le manque de bancs, par exemple. Et c'est un travail qui a été mené aussi avec notre conseil des mobilités, qui regroupe donc tous les usagers d'espaces publics, hein, le collectif des handicapés, les piétons, les cyclistes, les usagers des transports en commun.
Et vous disiez tout à l'heure que les transports en commun avaient quelques problèmes. Enfin, disons que, étant donné la nature de la pandémie, eh bien, ils étaient peut-être moins fréquentés qu'auparavant. Un autre système de transport sur lequel vous misiez beaucoup à Rennes, mais qui était aussi en développement dans beaucoup de villes, et ailleurs, d'ailleurs que dans les villes, c'est le covoiturage. Il est mis à mal aussi par cette question du transport lié au Covid.
Oui, tout à fait, puisque là, la crainte qu'on peut avoir, c'est que les gens se déplacent plus vers des transports individuels, finalement. Alors que dans notre plan de déplacement urbain, on a beaucoup misé sur le covoiturage, en mettant en place de nouvelles applications qui permettent aux personnes de faire des équipes de covoitureurs et même de rémunérer. Donc, c'est une opération qu'on doit mettre en place dès la rentrée. Là, c'est de rémunérer le covoitureur, le conducteur et le passager pour vraiment inciter à la pratique du covoiturage.
Marie Huyghe, c'était une question qui ne se posait pas ou peu dans l'espace rural, alors qu'on aurait pu penser effectivement que c'était la bonne solution, le covoiturage, avant la crise, pour pouvoir économiser des transports publics en particulier qui étaient moins fréquents qu'en ville. Et puis en fait, les gens préfèrent voyager seuls dans leur automobile.
Je dirais pas que ça se posait peu, parce qu'il y a énormément de territoires ruraux ou périurbains, notamment dans l'ouest de la France, hein, où il se passe plein de choses, où il y a des réseaux de covoiturage qui sont extrêmement dynamiques. Il y a du covoiturage, il y a aussi l'autostop de proximité, ou covoiturage dynamique. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en matière de covoiturage, mais effectivement, il y a un vrai risque aujourd'hui que ces réseaux de covoiturage ils ne séduisent plus parce que considérés comme trop dangereux, évidemment.
Vous écoutez Le Temps du Débat, la crise est-elle le moteur des nouvelles mobilités? Avec trois invités, Sylviane Rau de la ville de Rennes, Marie Huyghe, ingénieure et docteur en aménagement du territoire, et Vincent Kaufmann, spécialiste des questions des sociologies urbaines et des mobilités.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole, la voie va, où vélo va, vélo vire. Vélo volte, où va la vie? Vélo va, belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée. Belle colcose de spationose, bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole, la voie va où vélo va. Vélo vire, vélo volte, où va la vie? Vélo va, belle moto, beau mécano. Spiderman, superbe man, belle bécane à arbre à cames, turbochrome d'échappement.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vélovol de Dick Angarn dans cette émission du temps du débat consacré à la question des mobilités. Une chanson sur un beau rythme de pignon qui tourne bien. C'est bien pour pouvoir continuer à discuter avec nos trois invités, avec Sylviane Drault, avec Marie Huyghe et avec vous, Vincent Kaufmann. Vous avez la possibilité, en tant que spécialiste des sociologies urbaines, de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités, de comparer des espaces différents, en particulier entre la Suisse et la France, et vous l'avez fait déjà tout à l'heure, mais également de comparer, parce que vous allez enseigner un peu partout, avec d'autres pays. Une des questions qui se pose, puisque il n'y a pas simplement que les questions locales, c'est la moyenne distance, pourrait-on dire, qu'on utilisait généralement, par exemple, par des avions low cost, qui risquent d'être touchés profondément par cette nouvelle crise, qui est la crise du coronavirus.
Oui, alors tout à fait. Ben, y a un constat qui je trouve extrêmement extrêmement intéressant, alors qu'on a pu faire en Suisse, mais on voit le même actuellement en Allemagne, c'est que bon, y a une reprise là depuis une semaine ou deux des activités, et quand on essaie de mesurer la reprise en termes de mobilité, on se rend compte qu'il y a un type de déplacement qui reprend beaucoup plus lentement que les autres. C'est justement ces déplacements de moyenne distance, c'est des déplacements domicile-travail qui seraient longs, hein, les grands mobiles ou ce type de déplacement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça renvoie certainement au télétravail. Ça renvoie à toute une série de phénomènes, mais
on voit aussi les difficultés des compagnies aériennes, mais pas simplement, aussi des constructeurs aéronautiques comme Airbus ou d'autres qui commencent à se poser des questions sur l'avenir de leur secteur, étant donné peut-être un moindre intérêt des voyageurs pour leur mode de transport.
Oui, tout à fait, parce que alors assurer les distances de sécurité dans un avion, je pense que c'est effectivement quelque chose qui n'est tout simplement pas possible.
Oui, et donc vous pensez que justement ce type de mobilité risque d'être profondément touché par la crise du coronavirus?
Oui, je pense qu'il va être très touché, et il y a, je pense, un certain nombre de modes de vie qui vont peut-être être même remis en question, hein, par la crise actuelle. Voilà, tous ces modes de vie qui jouaient sur la tension de la vitesse, hein, en disant, ben voilà, je peux habiter loin de mon domicile, ou je peux avoir ma famille, un lieu d'ancrage à un endroit et un pied à terre dans une autre agglomération, faire la navette en avion, en TGV ou en voiture. Voilà, ce genre de mode de vie qu'on a vu beaucoup se développer ces dernières décennies, et pas seulement d'ailleurs parmi les élites, hein, bien, je pense qu'effectivement, et on le voit dans les chiffres de la reprise, c'est pas absolument évident qu'ils retrouvent leur niveau d'avant la crise.
Il y a tout un quartier derrière la gare, Sylviane Drault, à Rennes, qui était justement en voie d'aménagement, ou peut-être déjà aménagé. Ça fait un certain temps que je ne suis pas venu à Rennes, mais justement qui était un quartier d'aménagement dans lequel on comptait des gens qui pouvaient être des pendulaires, habitant tout près de la gare, partant travailler à Paris et revenant le soir. Ça risque de changer aussi les questions d'urbanisme dans une ville comme Rennes, non?
Alors, je crois que c'est important aussi de pouvoir proposer aux habitants rennais et rennais des lieux de loisirs, justement, de proximité. Je pense que les gens vont peut-être plus facilement rester dans leur ville. Donc, c'est pour ça qu'on aménage aussi des parcs comme les Prairies Saint-Martin. C'est un espace dans Rennes où on peut avoir des loisirs facilement. On peut aussi faire des balades à vélo le long de la Vilaine. Et ça, c'est des choses qu'on va mettre en valeur aussi dans notre plan de tourisme.
La question quand même de l'urbanisme est une question qui se décide pour des décennies, généralement, quand on est responsable comme vous dans une ville. Évidemment, c'est plus difficile en temps d'incertitude. On sait bien comment, depuis maintenant 3 mois, nous sommes dans un temps d'incertitude J'imagine qu'on lance des plans, on imagine des usages, on imagine des changements urbains en fonction justement de ces nouveaux usages. Et puis on pourrait peut-être se lancer dans des aménagements qui ne correspondraient plus aux usages futurs après la crise justement. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette incertitude qui rend peut-être le métier d'élu plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore quelques mois ?
Il y a quand même une demande forte des habitants. Hein. Nous l'avons vu avec le budget participatif de la ville. Donc, ce budget participatif, c'est 18 millions d'euros sur la mandature qui permet aux habitants de proposer des projets qui sont soumis au vote des Rennaises et des Rennais. Et beaucoup de projets concernent des aménagements cyclables, des services aux cyclistes. Et les balades urbaines aussi que nous avons organisées dans le cadre de l'élaboration de notre plan local d'urbanisme ont montré aussi une envie de reconquérir des places inexploitées, des places parking. Ça, je pense pas que ça
changera.
La crise ait changé cette donne-là. Je pense.
Non, mais en revanche, vous avez toujours vous avez un obstacle, par exemple, comme dans beaucoup de villes, qui est la rocade à Rennes. Cet obstacle, il est difficile à contourner, difficile à passer. C'est compliqué, une rocade qui était faite dans les grands temps de l'automobile. Mais voyant le retour de la voiture, on peut se dire, si on avait envie de casser la rocade, d'en faire autre chose, de le transformer en parc urbain, par exemple, eh bien, c'est peut-être pas si simple que ça que de le mettre en place.
Oui, Rennes, c'est vrai que ne présente pas directement de continuité urbaine entre les communes limitrophes, ce qu'on appelle une ville archipel, hein, qu'il y a une ceinture verte entre les espaces urbains et agricoles. Et c'est ce modèle d'urbanisation qui préserve les terres agricoles, mais qu'on veut absolument préserver aussi, mais qui induit de fait des contraintes de mobilité avec des espaces étendus, plus d'espaces étendus à parcourir, quoi.
C'est ce que vous appelez.
C'est vrai que la voiture individuelle.
Allez-y.
La voiture individuelle reste le mode de déplacement le plus utilisé, quoi.
C'est ce que vous appelez, Vincent Kaufmann, dans des termes sociologiques assez connus et même anthropologiques, les sentiers de dépendance. C'est-à-dire qu'une rocade, elle est construite pour 60 ou pour 100 ans. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Tout à fait. Oui,
un périphérique, c'est fait aussi pour la même durée.
Tout à fait. C'est la même chose pour une voie de chemin de fer, une autoroute, un tramway. Enfin non, un tramway, peut-être ça dure un petit peu moins longtemps. Mais effectivement, c'est des investissements qui sont faits sur le moyen et le long terme. Et donc, peut-être ce qui est important et ce qu'on avait un petit peu oublié, parce que on a peut-être tendance toujours à penser un peu le futur comme étant le prolongement des tendances passées, c'est qu'il peut y avoir des ruptures. Et que donc, c'est important que les choix d'investissement que l'on fait, les réalisations dans lesquelles on investit, eh bien, elles aient une certaine plasticité, c'est-à-dire qu'il soit possible finalement de les faire muter, de les faire se transformer.
C'est tactique là aussi.
Voilà. Alors ça c'est une tactique, mais alors à l'échelle du temps long. Mais sinon il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien réagir par rapport à la discussion qu'on a actuellement, c'est que moi je crois que ce qu'on voit quand même en Europe depuis une dizaine d'années, c'est que et plusieurs enquêtes, grandes enquêtes qui ont été menées, notamment dans le cadre du Forum Vie Mobile, l'ont montré, c'est qu'il y a dans la population un désir très fort de ralentissement de son rythme de vie. On vit totalement sous pression, et c'est notamment lié aux objets connectés qui nous entourent, dont on est suréquipé. C'est aussi lié aux déplacements qui se sont beaucoup étendus. Le nombre de kilomètres parcourus, c'est lié aux différentes activités que l'on mène.
Nous aurons un thème sur cette nous discuterons de ce sujet la semaine prochaine dans le temps du débat, justement sur le ralentissement possible ou pas, justement après la crise du coronavirus. Oui.
Mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, et en fait ça se traduit par des dispositions qui sont très fortes à utiliser davantage des moyens de transport comme le vélo, comme la marche. Alors on l'avait vu aussi dans des enquêtes concernant les transports publics, mais je crois que c'est pas du tout anodin. Ça va pas changer simplement parce qu'on a eu la crise du coronavirus. Et moi je suis pas persuadé, là je vous entendais dire on assiste au retour de la voiture, moi je suis pas persuadé qu'on assiste tant que ça au retour de la voiture, en fait. Je pense qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça va pas être si simple, en fait.
Et dans le milieu rural, Marie Huyck, de toute façon vous expliquez bien dans vos travaux avec les autres chercheurs avec lesquels vous avez travaillé que de toute façon le tout voiture ne peut pas être remplacé par le tout autre chose, ça n'est pas possible.
Non, il n'y a aucun mode de transport qui permet d'allier tous les avantages quand même de la voiture, la liberté, la rapidité, l'immédiateté, etc. Le système tout voiture qu'on connaît aujourd'hui va être remplacé, enfin en tout cas on espère, par un système qui est composé d'un bouquet de modes en fait, parmi lesquels la voiture encore, mais aussi le covoiturage, les transports en commun, le vélo, la marche. Mais cette idée-là de bouquet de modes de transport, elle est valable aussi bien en urbain qu'en rural. Hein. Oui, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de miracle, ni technologique, ni rien du tout qui permettrait de remplacer la voiture par un autre objet.
Il est beaucoup trop tôt pour y réfléchir, mais on sait que certains des urbains qui ont testé pendant le confinement eh bien, la possibilité de travailler en télétravail commencent à réfléchir, disent-ils, on ne sait pas si ça va passer, ils vont passer à l'acte, à une installation justement plus pérenne dans les milieux ruraux, à distance des villes, avec la possibilité de continuer en télétravail. Cela aussi, ça devra être pris en compte par des gens comme vous qui sont ingénieurs, consultants, qui travaillent sur ces questions de déplacement dans les milieux ruraux, parce que si dans 5 ou 10 ans eh bien, on a beaucoup plus d'urbains qui retournent dans des espaces qui sont moins denses, eh bien, cela changera aussi les usages.
Oui, mais on pourrait quand même y voir un avantage qui est qu'on aurait certainement une demande de la part de ces néo-ruraux de pouvoir se déplacer autrement qu'en voiture. C'est ce qu'on observe hein, dans certaines communes périurbaines ou rurales où on a des nouveaux habitants qui disent mais attendez, en ville je pouvais me déplacer à vélo, à pied, c'est pas parce que j'arrive en rural que j'ai envie de devenir complètement dépendant de ma voiture. Donc finalement cette arrivée là de d'urbain, ça pourrait être aussi une bonne chose pour ces territoires en matière de mobilité.
Est-ce que la question du télétravail, vous l'êtes posée, Sylviane Rau, ou vous avez vu vos concitoyens à Rennes se la poser, justement, pour savoir, peut-être, pour quitter le centre-ville de Rennes, s'installer plus loin, travailler différemment, avoir moins de temps de transport, parce qu'on sait combien la question du temps de transport a été au centre, justement, de la réflexion de ceux qui se posaient la question de savoir s'il fallait s'installer ailleurs qu'en ville.
Alors, le télétravail, c'est vrai, c'est une question qui est réfléchie déjà depuis quelques années sur la ville de Rennes. Et nous avons aussi un bureau des temps qui a été créé depuis 2002 et qui travaille sur justement qui mène des actions pour harmoniser les temps sociaux et favoriser la qualité de vie des habitants. Et c'est un travail qui est mené au sein des entreprises pour réfléchir qu'est-ce qui bloque dans le télétravail, pourquoi. C'est si compliqué de télétravailler. Alors, je pense que là, avec le confinement, l'expérience a montré qu'on pouvait finalement télétravailler plus facilement. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'avoir la création de tiers-lieux aussi dans la métropole où on peut aller télétravailler chez soi, mais aussi on peut se retrouver avec des collègues.
Des sortes de lieux de coworking, par exemple.
Des lieux de coworking, en fait, c'est ça, oui.
Vincent Kaufmann, c'est une question que vous vous posez même personnellement, pourrait-on dire, puisque vous êtes à la fois à cheval sur Genève et sur Paris et que vous allez donner des cours un peu partout sur la question de l'urbanisme et des mobilités. Ces questions, vous devez vous la poser pour vous et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans votre cas qui se la posent.
Je crois que le télétravail, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même une trentaine d'années que les spécialistes du domaine de l'urbanisme et de la mobilité disent que c'est une solution pour essayer de, comme on dit en jargon, décréter les heures de pointe, hein, c'est de leur couper la tête. Si on
faut rappeler 500 000 passages quotidiens sur la ligne 1 du métro à Paris qui va jusqu'à la Défense et 1 200 000 usagers du RER A par jour.
Voilà, donc c'est une solution qui avait été identifiée il y a déjà très longtemps, puis elle s'est jamais vraiment développée, en dépit de toutes sortes de mesures. Je pense que beaucoup d'actifs ont peur qu'on les oublie quand ils télétravaillent, ou qu'on interprète le fait qu'ils télétravaillent comme étant un manque de motivation. Il y a toutes sortes de malentendus. Il y a aussi des aspects juridiques. Il y a toutes sortes d'obstacles au télétravail qui ont rien à voir avec la mobilité et qui l'ont pas favorisé. Mais depuis 2 mois, on l'expérimente absolument massivement. Même si tout le monde évidemment peut pas télétravailler en France, par exemple, d'après une enquête qui a été menée il y a quelques semaines, il y a 40% des Français qui ont des emplois pour lesquels il n'est pas possible de télétravailler. Mais pour les autres, effectivement, c'est quelque chose qui a été plébiscité, qui a été bien vécu. En France, là, j'ai les chiffres sous les yeux. C'est une enquête qui a été également menée par le Forum de l'Immobile hein, sur le télétravail pendant le confinement, on voit qu'on a à peu près la moitié des actifs qui ont télétravaillé, qui l'ont bien vécu. Ça leur a justement permis de ralentir leur rythme de vie et peut-être de redécouvrir la proximité de leur domicile, leur quartier, de retrouver une certaine qualité de vie. On gagne beaucoup de temps quand on n'a pas besoin de se déplacer pendant une heure et demie, deux heures par jour.
C'est pas bon pour la lecture parce qu'on lit beaucoup moins quand on est chez soi que quand on est en transport en commun. Bon, enfin, ça, c'est
tout à fait.
Pour les librairies, c'est peut-être beaucoup moins bon. Simplement, une des questions que l'on peut se poser, Vincent Kaufmann, c'est de savoir si des nouveaux modes ou des nouveaux développements des modes de transport à l'issue de cette crise du Covid vont faire des économies d'argent public. On sait qu'il y aura énormément d'économies à faire. On imagine que ça va être très difficile à la sortie de cette crise, justement parce que l'argent va être distribué un peu partout et qu'il sera difficile peut-être de le mobiliser pour pouvoir faire des nouveaux plans de transport, par exemple. Est-ce que, justement, ces nouveaux modes dont on parle depuis le début de cette émission sont plus souples, moins chers, comme le pense, par exemple, Julien de Labaca, qui est un des penseurs, justement, de ces questions d'urbanisme tactique?
Oui, alors si on repense au vélo, si on repense à la marche, c'est clair. Je pense que d'une certaine manière, le télétravail risque de devenir, sans jeu de mots, un nouveau moyen de transport d'une certaine manière, et risque de se développer. Moi, je le vois dans le monde académique déjà depuis quelques années. L'expert international ne vient plus depuis les États-Unis pour une soutenance de thèse. On l'a en vidéoconférence, et c'est très bien pour tout le monde. C'est bien pour lui parce qu'il gagne beaucoup de temps, c'est bien pour ceux qui invitent parce que
il gagne moins cher
d'argent, etc. Et donc ce genre d'optimisation, je pense qu'elles vont considérablement se développer. Maintenant, il y a peut-être un point sur lequel j'aimerais revenir.
On va arriver au bout de l'émission, allez-y, oui.
Les transports publics, bon, alors c'est clair que là ils ont un petit peu morflé, si on peut dire. Mais ce que je vois dans le cas de la Suisse, c'est une remontée extrêmement rapide en fait de leur fréquentation, plus peut-être que ce qu'on avait imaginé. Et moi, je pense qu'il faut pas les donner pour morts, ces transports publics.
Non, non. On espère pas, en tous les cas.
Je pense que non, mais il y a un petit peu des fois un discours un peu défaitiste en disant bon voilà, il y a un retour massif vers l'automobile, il y a une désertion des transports collectif. Moi, c'est pas ce que je vois comme analyste qui cherche à mesurer en fait ces tendances.
Sylviane Roux, justement, dans des contextes de budget plus serrés, peut-être à l'issue de cette crise, est-ce que justement ce sont des budgets qui seraient favorisés ou qui favoriseraient plutôt des politiques urbaines plus légères, moins dispendieuses en termes d'aménagement urbain, par exemple?
Bah, c'est vrai qu'on se rend compte que pour améliorer la circulation des piétons, par exemple, là, on va mettre en place, on va agrandir notre centre piéton et on met en place des zones de rencontre. Alors, les zones de rencontre, ça permet aux piétons de circuler sur la chaussée et c'est des aménagements finalement qui coûtent pas très cher et qui peuvent être réalisés rapidement.
Et donc, cela, vous pensez que c'est à la fois peu cher et donc très efficace dans un contexte de changement des habitudes de vie?
Les habitudes de vie, c'est souvent le changement. Il intervient souvent quand il y a un déménagement, un changement dans l'organisation familiale. Et c'est à ce moment-là qu'on va trouver la motivation, l'envie de changer son mode de transport. Donc c'est le moment est vraiment propice aujourd'hui.
Merci à vous, Sylviane Roux, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Rennes en charge des mobilités. Merci à Marie Wigg, qui est ingénieure docteur en aménagement du territoire et qui est consultante, justement, en particulier pour des collectivités territoriales dans le milieu rural. Et merci à Vincent Kaufmann depuis Genève où il vit, donc d'avoir été avec nous. Il est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités. Il a co-écrit en 2017 chez Economica « Mobilité et libre circulation en Europe ». C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Antoine Tricot, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, Jacques Hézubert, à la réalisation Perret Legras. Vous pouvez aussi lire les textes de la conversation mondiale que nous avons lancée pendant le confinement, l'équipe du temps du débat. Cette semaine, les philosophes Jing Ziyé, Alexandre Jolien, Shaj Mohan, l'architecte Nicolas Gilsoul et la chorégraphe Marie Chouinard. Aujourd'hui, ce sont des textes que nous avons publiés pendant toute la semaine dans la conversation mondiale qui continue sur le site de France Culture. C'est donc terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous commencerons la semaine en évoquant les questions de colère déconfinée, de tout ce qui peut être de l'ordre du conflit social une fois le confinement terminé.